Donc j'ai eu envie aujourd'hui de parler de confiance dans la pratique. Combien je remarque que pour moi, plus j'avance, plus j'ai confiance. Je vais essayer d'expliquer en quoi j'ai confiance. Et plus j'ai confiance, plus en fait ça me permet d'aller profondément dans ma pratique. Et comment sans la confiance, en fait, juste la concentration, juste le questionnement, juste l'introspection, juste la partie philosophie, que j'adore tout ça, mais sans la confiance, ça, il y a quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir, en fait. Et donc, du coup, je remarque que dans ma pratique, il y a ce mélange, cet équilibre est très important. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que la pratique, comment est-ce que je veux dire ça? La posture que je prends pour la confiance, qui a à voir avec la douceur, avec le lâcher prise, avec le non-contrôle, avec le non-faire, avec le ne même pas essayer de devenir quelqu'un, avec c'est plutôt la partie allongée de ma pratique. Je m'allonge. En fait, je pratique assis le matin. Je pratique assis pendant un certain temps, je ne sais pas. Et puis après, à un moment, je m'allonge et je continue. Mais ça change complètement parce que énergétiquement, c'est autre chose. Mais dans la posture allongée, du coup, là, je m'en remets plus à mes aspirations profondes qui travaillent du coup en profondeur, mais je ne suis plus forcément conscient. Voilà, ça peut partir dans du sommeil. Mais c'est ces deux... C'est deux postures en fait. Une qui incarne quelque part le contrôle, la possibilité d'aller avec un regard en profondeur et la tenue, la concentration. Et l'autre qui incarne vraiment je lâche, mon corps est complètement porté, je n'ai absolument besoin de faire aucun effort pour tenir mon corps. Et là je laisse venir. Et cet équilibre entre les deux, je le trouve extrêmement fructueux. Donc confiance, je pense que, en fait, j'essaye depuis déjà pas mal d'années de remarquer que la vie se fait d'elle-même et que c'est pas moi qui l'a fait. Et alors il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille, des exemples assez énormes, comme par exemple celui que je prenais tout à l'heure de quand mon fils est né. Il est né ici à la maison et qu'il est sorti du ventre de Lydia et la sage-femme l'a posé sur le ventre de Lydia du coup, et puis il est resté là un petit peu, enfin ça a passé un peu du temps. Mais un moment, hop, il s'est retrouvé au sein, il a commencé à téter. Alors comment il savait? Ça me coupe la chic. C'est incroyable. C'est incroyable qu'il y ait cette connaissance, cette compréhension, cette intelligence. Bien sûr, il y a le côté touchant, mais c'est aussi, je trouve ça incroyable. Ou un enfant qui apprend à marcher, sans lire de livre, juste, il se met sur deux pattes. C'est incroyable, c'est super intelligent en fait. Et cette intelligence, on la voit partout, tout le temps, et on ne la remarque pas. Et du coup, parce qu'on ne la remarque pas assez, parce qu'on a aussi cette tendance à expliquer d'une façon très rationnelle aux pratiques et scientifico-matérielles tous les végétaux, la nature, les planètes et tout le truc. Et puis aussi, dans nos idées, nos aspirations et tout ça, on va toujours penser que c'est à nous, que c'est... Même quand il y a des trucs magnifiques qui viennent, on peut en être fier, on dira « j'ai pensé à ça » ou « j'ai eu cette aspiration », comme s'il y avait un jeu qui a eu l'aspiration. Et du coup, le fait de tout récupérer derrière l'identité du jeu fait que c'est tout jeu qui fait ça. C'est pas, on ne voit plus cette intelligence, mais en fait, ce bébé qui a trouvé cette manière, c'est nous. Et on est ça. Et on n'est que ça. Il n'y a rien de nous en dehors de ça. C'est pas possible. Si on y réfléchit, prenez le temps d'y réfléchir, c'est juste pas possible. Toutes nos pensées, toutes nos actions, tout est le fruit de cette nature intelligente qui cherche ses chemins, qui fait des trucs. Alors, on a nos codes de valeurs et tout ça, on peut ne pas comprendre et tout ça, mais il y a une nature qui cherche à se découvrir. Parfois, j'ai l'impression, si j'observe un beau paysage, que c'est la nature qui regarde. Parfois, j'ai presque l'impression qu'il y a une voix qui me dit « laisse-moi voir, laisse-moi voir ». Que dans mes yeux, en fait, c'est la nature, c'est la vie qui regarde, qui se regarde. Et donc tout ça donne peu à peu confiance dans le fait qu'au-delà de cette sensation de je mène ma pratique, j'ai mes petites techniques, j'ai mes questionnements, j'ai mes manières de faire et tout ça, il y a aussi cette extraordinaire, incompréhensible intelligence qui sait très bien comment tout ça marche. Et qui sait très bien ce qu'il faut faire pour soigner des émotions, pour trouver les bonnes réponses dans les situations, pour trouver toujours, en fait, comment se tenir droit dans les tempêtes. Et moi, j'ai confiance en ça. De plus ça va, j'ai confiance en ça. Et ce qui augmente cette confiance, c'est la sensation. Cette confiance, c'est d'autant plus grande que quand je sens que je fais ce que je dois. C'est-à-dire quand je sens que je prends soin de la vie. Quand je sens que je prends soin de la vie, cette confiance augmente. Parce que ben moi, je fais ce que je peux. Je marche mon chemin. Et ce faisant, j'ai de plus en plus l'intuition que ça ne veut pas dire que parce que je prends soin de la vie, prendre soin de la vie, ça peut vouloir dire essayer d'aider quand je peux. Essayer de. Moi, par exemple, dans mon chemin, bah de donner le dharma sur donation. J'essaye d'aider d'être au service de la vie. Ou ça peut être d'essayer de manger un peu moins. Ah, ça, c'est au service de la vie, parce que le corps, il morfle un peu sinon. Et enfin, c'est énorme. Mais on a plein d'aspirations, de petits endroits où on sait qu'on pourrait aider un peu plus la vie. Et en fait, en faisant ça, j'ai l'impression non pas que du coup, j'aurai jamais de maladie, je serai toujours en sécurité financièrement, il ne m'arrivera jamais d'accident, et il n'y aura jamais de guerre là où je vis et que je ne vais pas mourir. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que parce que moi je fais mon boulot, eh ben, je vais toujours avoir au bon moment la bonne intuition ou la bonne manière de me tenir dans une situation. Et il y a cet exemple de cette amie, Cathy, qui faisait une manifestation, une action avec Extinction Rebellion, qui est un groupe d'activistes pour le climat. Ils étaient dans un supermarché et ils sont rassemblés voilà, pour un sitting. Et là, les CRS sont arrivés, les ont entourés, sont assurés qu'il n'y avait pas de caméra et tout ça. Et puis alors là, ils ont été extrêmement violents. Et elle était avec deux ou trois personnes, et eux, ils avaient décidé en fait de méditer. Et donc, ils étaient là en méditation, les yeux ouverts, et c'était hyper violent. Enfin, même mentalement ou émotionnellement, pour pouvoir prendre un truc pareil, c'est énorme. Et là, subitement, elle s'est sentie remplie de compassion. Et du coup, elle a senti un truc qui lui tombait dessus. Des pensées de compassion, une sensation de compassion, donc un mélange d'amour et en même temps de tristesse et tout ça qui se mélange. Et pour elle, ça a été une expérience extrêmement remuante. Et quand elle m'a raconté ça, en fait, ça me questionne parce que, enfin, ça me questionne, ça renforce ce ressenti que j'ai que quand on prend soin, on recevra ce qu'il faut au bon moment pour pouvoir dealer avec les situations qui se présentent. J'en ai plein des exemples. J'ai des histoires extraordinaires. Malheureusement, pas le temps, mais à un moment, je voulais. Donc, je pense que dans notre pratique, je pense, et aussi je m'appuie sur les enseignements du Bouddha, qui parle dans le noble sentier octuple, qui est donc sa manière en fait de développer les différents points de notre vie dans lesquels on peut pratiquer le dharma. Il y a les deux premiers points, c'est la right view, donc la compréhension juste, right understanding, la compréhension juste. Alors là, juste, je vais dire un petit mot à part, parce que je trouve ça super intéressant. La compréhension juste ne veut pas dire comprendre, avoir une compréhension, les choses sont comme ça et pas comme ça, point barre. C'est la compréhension juste, c'est une compréhension qui ne génère pas de souffrance. Donc on voit une situation d'une manière qui ne va pas générer de la souffrance. Donc il y a la compréhension juste, il y a la pensée juste. Ça, ces deux parties-là, c'est la section sagesse. Et puis les trois suivantes, c'est la parole juste, donc une parole qui ne crée pas de souffrance, hein. L'action juste, une action qui ne crée pas de souffrance, et un moyen d'existence juste. Et ces trois-là, on l'appelle, c'est la section éthique. Et puis après ça, il reste l'effort juste, la concentration juste et la méditation juste. Ces trois-là, c'est la partie méditation, pratique. Donc on voit qu'au milieu, dans les conseils du Bouddha pour atteindre la réalisation, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais pour diminuer la souffrance, voire quitter la souffrance, voire qu'il n'y ait même plus de souffrance du tout, est-ce possible? Laissons-le en question, mais en tout cas, pour prendre un chemin vers la cessation de la souffrance, il faut un engagement éthique. Pas juste de la réflexion, de la compréhension et jouer sur les manières de voir, ce que c'était dans mes premiers discours, et j'aimerais tellement avoir quelques heures de plus pour vous en parler. Mais parce que c'est vraiment un endroit que j'aime énormément, cette partie sagesse, cette partie surtout la compréhension juste. Et puis, donc pas simplement cette partie sagesse, pas simplement les trois de la partie méditation, mais l'éthique, toute la section éthique est incontournable pour arriver à une libération. C'est-à-dire que, en tant que sujet, si on ne se transforme pas, on n'a pas accès à une vision profonde. On doit aussi s'anoblir, on doit aussi anoblir notre esprit, avoir une vie de plus en plus digne, avec un respect de valeurs. Alors les valeurs, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie à l'école, c'est quelque chose qu'on ressort dedans. Avec une manière de marcher nos valeurs et de respecter nos valeurs, au plus on respecte nos valeurs, au plus on va avoir accès à la sagesse. Et à, par exemple, parce que tout est interconnecté en fait. Par exemple, si on est encore avec nos valeurs, on va avoir moins d'agitation de l'esprit. Donc une concentration plus facile. Une compréhension plus juste. Ah, tout ça est en lien, en fait. On ne peut pas les séparer. C'est tout. On est obligé de les pratiquer un peu tous. Mais parfois, on a cette notion qu'en pratiquant la méditation, l'introspection, peut-être un peu la compassion, et puis la réflexion philosophique, et lire des textes et comprendre, ça serait suffisant. Et il y a certaines traditions qui mettent ça tellement en avant que c'est comme si il y a certaines traditions qui ont tendance, en tout cas dans la manière dont je les ai compris, et là j'ai en tête l'Advaita par exemple, qui m'est si cher. Je dis toujours, de temps en temps, Nisargadatta Maharaj, que j'ai lu pendant 20 ans le même livre, et j'y trouve toujours des pépites et des perles qui m'éclairent et m'éveillent. Mais cet aspect de prendre soin du monde n'est pas très présent, parce que le monde est vu comme illusoire. Et là, du coup, je vois que dans le chemin proposé, le noble sentier octuple, il y a cette section éthique, en fait, qui a un sens énorme, parce que dans l'Advaita, par exemple, il y a une phrase qui dit, en parlant de la réalité, dit qui n'existe pas et pourtant qui apparaît. Et ça, je trouve qu'elle est très belle, cette phrase. Donc, on peut dire, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire exister, pas exister, c'est des mots très compliqués. Si on demande à un scientifique moderne, ils ne savent plus du tout ce que ça veut dire exister. Encore il y a 100 ans, c'était assez clair, maintenant c'est la confusion totale. La réalité, ce que c'est la réalité, vous pouvez prendre n'importe quelle science et vie, en vente dans n'importe quel tabac, et vous verrez la nature de la réalité, on se pose des questions, en gros. Et c'est vrai, j'en ai plusieurs à la maison. Attendez, où est-ce que j'en étais ? Donc, ce que je trouve qui m'a manqué et que je découvre en fait ces dernières années, c'est de prendre soin de ce monde dont on ne comprend pas les racines et qui semble pratiquement illusoire, ou voilà, qui perd en tout cas de sa solidité au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin. Et pourtant, dans le bouddhisme et dans les enseignements du Bouddha, il n'y a pas moyen d'arriver à la réalisation si on ne prend pas soin de ce monde. Il faut que nos méditations et nos réflexions s'incarnent dans des actions. C'est très clair comme message. C'est très clair. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans notre coin à méditer et écouter des discours et y réfléchir et reméditer et du coup ressentir des trucs, avoir des expériences d'introspection, avoir des compréhensions profondes. Et du coup, quand on réécoute un autre discours, on approfondit, on va être coincé à un moment. Parce qu'il faut faire avancer toute la partie éthique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en action pour matérialiser tout ce qu'on a compris, ressenti, perçu, approfondi. Il faut que ça prenne place dans ce monde. À travers aider quelqu'un dans le bus, faire une manifestation pour le climat, peut-être manger un petit peu moins ou faire un peu plus de sport si on pense que c'est ça. On doit sentir. Et là, un autre thème qui m'interpelle de plus en plus, et vous l'entendrez dans d'autres retraites, c'est la notion du maître intérieur. Il y a quelque chose en nous qui sait. Et comment est-ce qu'on peut écouter avec respect cette voix intelligente qui sait déjà quel chemin il est nécessaire qu'on suive. Donc il y avait cette histoire en Autriche avec mon œil. Est-ce que je l'ai raconté en français? Je ne sais plus. Non? Ok. C'est marrant, ça se mélange un peu à refaire deux fois le même discours. Sur les mêmes lignes. Donc, c'est pendant une retraite en Autriche, c'est une retraite où on fait du ski, de randonnée. Et je suis avec un petit groupe, 12-15 Autrichiens, dans un chalet de montagne entouré de neige. Et là, je dois aller donner le discours. La cloche sonne, je sens un truc à mon œil qui me démange un peu, je vais face au miroir et là, j'ai l'œil plein de sang en fait. Et du coup, le manager qui passait par là, je lui dis, écoute, il fait waouh, et ça lui fait super peur. Il appelle la médecin, il y a un médecin qui est avec nous à chaque retraite pour le ski, et qui me dit, bah écoute, en fait, c'est peut-être rien du tout, peut-être des vaisseaux qui ont explosé dans le blanc de l'œil, ou ça peut aussi être grave. On le saura dans 1 heure. Si tu vois que ta vision commence à se déformer, eh ben c'est qu'il y a un problème. Et donc, là, je dis au manager, bah, dis à tout le monde que là, je ne vais pas faire le discours tout de suite. Je vais faire la méditation d'abord et le discours après. Ça me donne 1 heure comme ça et on verra bien la vision. Je m'allonge pour la méditation et là, je prends grand soin de ne pas laisser l'inquiétude rentrer. Parce que sinon, je sais que ça va me pourrir toute la méditation. C'est inarrêtable une fois que c'est dans la maison. Faut fermer les portes. Et du coup, je reste bien avec ma respiration. Bien sûr, mon œil il lance un petit peu. Et puis en plus, juste après, je partais pour un voyage en Inde. Tout le monde était déjà inscrit, avait payé son acompte à l'agence et tout, si je ne pouvais pas y aller. Enfin, il y avait plein de raisons d'être inquiet, en fait. Et du coup, je ne voulais vraiment pas ouvrir la porte à l'inquiétude. Et là, en fait, je suis resté pendant ces 45 minutes complètement attentif à ma respiration et aucune pensée n'a pu rentrer. Il n'y en avait pas d'autres que celle-là qui voulait rentrer et j'en ai laissé aucune rentrer. Et du coup, c'était une super belle méditation, en fait. C'était hyper paisible. C'était très doux. Et puis après, j'ai ouvert les yeux, les lignes droites étaient toujours des lignes droites. Et du coup, j'ai commencé à donner le discours et j'ai parlé de cette méditation. Et puis après, en fait, c'était juste des veines. Donc les gens avaient juste peur de me regarder dans les yeux. Je voyais tout le monde qui regardait partout, sauf qui me regardait. Mais voilà, ça a duré un peu longtemps. Mais c'était rien de grave. Mais dans ce moment-là, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait cette boîte à outils que j'ai acquis dans la méditation, qui m'a été donnée fois 1000, parce que j'en avais besoin. Là, c'est rare que je puisse méditer avec autant de clarté. Mais là, c'était sans aucun effort. Tellement, je ne sais pas, c'est comme si quelque chose de nouveau m'avait pris comme dans ce moment-là, en fait, c'est comme s'il y avait du soutien. Et j'ai l'impression, c'est ça en fait, je pense, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est que on peut avoir confiance dans le fait que au plus on marche sur notre chemin, au plus on aura toujours la bonne réponse au bon moment pour faire, faire ce qu'il faut en fonction de la situation. Ça, pour moi, c'est une réalisation majeure, parce que ça me permet, quand il y a des décisions qui sont difficiles, de faire le choix qui parfois me fait peur. Parce que dedans, je sens que c'est ça qu'il faudrait faire, mais j'ai des résistances. Et là, si je vois que ce choix, c'est celui qui va être au service de la vie, alors je fais celui-là. Parce que je sais que c'est un investissement dans ma sécurité. Même si ça semble un délire financier, ça peut être... un exemple que j'avais à une époque, c'est... quand j'avais décidé de commencer à aller dans les écoles, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, j'avais envie, subitement, l'envie d'aller dans les classes et tout ça, pour la méditation pour les enfants. Mais ça générait plein de peur, parce que... plein de peur et plein de résistance. Il y avait... il faut me former, c'est pas pareil à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à chaque fois, il faut une approche différente, donc ça va être un boulot énorme. Les enfants, je ne suis pas forcément confortable, comme là, il m'a fallu déjà 10-15 ans pour être confortable avec un groupe d'adultes. Maintenant, je me relance dans un truc où ça ne va pas être facile. Pour gagner quoi ? L'éducation nationale, hein ? c'est pas gagné, justement. Donc, ce n'était pas là que j'allais pouvoir gagner ma vie. Tout me paraissait très compliqué. Et ma vie me semble déjà bien pleine sans que je me mette un truc comme ça sur le dos. Donc il y avait vraiment une grosse résistance à aller dans cette direction-là. Et puis à un moment, ça m'est venu très clairement, et cette question-là, elle me vient souvent. La question qui me vient, c'est: pour qui est-ce que tu travailles ? Tu travailles pour toi ou tu travailles pour le Dharma ? Tu travailles pour toi ou tu es au service de la vie ? Parce que c'était une inspiration profonde. Et puis j'avais mes résistances. Mais mes résistances venaient plus de mes petites peurs à moi. Il y avait cette peur financière, il y avait cette peur, il y avait des jeux d'ego aussi. Enfin, il y avait... Et quand cette question-là est venue, mais c'est évident. C'est évident que, ben voilà, ok. Je vais faire l'effort, je vais tout apprendre, je vais aller dans les classes. Et c'était super, en fait. Et je pense que de s'en remettre, quand c'est clair dedans que ça, ce mouvement, même si il est complètement illogique par rapport à une logique peut-être un peu conventionnelle, cette décision, si je sens que dedans, c'est juste, c'est prendre un grand risque que de ne pas la suivre. C'est là où je pense qu'on peut... presque mettre un visage ou un nom à cette voix qui nous parle, comme ça s'est toujours fait, et comme nous, on n'est plus capable de faire, malheureusement, d'une voix de sagesse qui est là et qui sait. Et quand il y a ce cachet d'authenticité, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Je suis sûr qu'il y a des moments, et il y a des moments, c'est confus. Est-ce que c'est du contrôle ? Est-ce que c'est des choses qu'on a appris et qu'on pense qu'on devrait faire ? Mais il y a des moments, c'est clair. Et quand c'est clair, je pense qu'il ne faut pas rater l'occasion, parce que ça vaut 1000 heures de méditation parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie de notre chemin. Et là, je pense que c'est très très important, parce que, en plus, si je reviens à cette partie éthique, ça ne concerne pas que l'éthique, ce que je suis en train de dire, mais sur la partie éthique, il y a des choses où on sait qu'on doit être en mouvement. Il y a des choses où on sent qu'on doit être en action. Et cette action, je pense qu'il est pressant aussi bien pour nous que pour notre société et que pour la planète, qu'on la manifeste. Pas juste de la sentir et puis d'attendre. Mais il y a des choses qu'on peut faire maintenant au niveau de l'état de la planète, de l'écologie, de la disparité sociale, des injustices et tout ça. Il y a des choses dans notre entourage près de chez nous où... on peut déjà saisir les occasions d'être utile et d'être au service de la vie. Et ça, je pense que c'est essentiel de le voir comme étant un pas sur notre chemin spirituel. Ces 8 points du noble sentier octuple, en fait, sont complètement interdépendants. On ne peut pas avancer sur 6 et laisser deux de côté. Ça bloque. Ça bloque, ça coince. On est obligé de considérer. Ça a été super bien réfléchi. Il avait bien joué son coup, le Bouddha. C'était le premier discours, ça. Il a parlé des quatre nobles vérités dans un discours. Il a établi les quatre nobles vérités, le sentier octuple des nobles, comme on l'appelle parfois, l'interdépendance entre tous ces points, notamment, et le chemin du milieu, en un discours. Vlam, il a placé toutes les fondations. Premier discours. Personne ne l'avait entendu avant. Donc c'est super bien symbolisé en fait notre parcours intérieur et les endroits dont il faut prendre soin. Et donc ce noble sentier octuple, c'est complètement interdépendant. On ne peut pas laisser des points de côté. Si, par exemple, pour prendre un exemple de ça, si on s'engage au service de la vie, si... ce qui est en fait un chemin de compassion, hein, c'est en lien avec la compassion, automatiquement, on s'engage moins sur le chemin du moi, moi, moi. On passe moins de temps à construire l'identité. Quand on est en méditation, du coup, parce que on a cette implication en dehors de nous-mêmes, qui n'est pas juste pour la construction de l'ego. J'aurais des choses à dire de ce côté-là, mais je pense que vous êtes avec moi. Donc, quand on est vraiment engagé pour les autres, quand on est vraiment engagé pour l'écologie, la planète, l'équité, l'esprit se pose plus facilement. Hein, la concentration est plus facile, puisqu'on est plus en accord avec nous-mêmes. Et on a aussi plus de confiance et on peut plus lâcher l'habitude de devoir construire une personne fonctionnelle. On n'est plus obligé de tout le temps travailler sur notre personne. On peut se permettre de n'être plus rien pendant un temps. On a confiance. C'est ça, c'est une des choses les plus difficiles en méditation. C'est d'avoir confiance qu'on peut ne plus rien être. On peut se laisser n'être personne pendant un temps. On n'est pas toujours obligé d'être en train de construire notre futur de manière à ce que ça fonctionne. C'est une des choses les plus difficiles, d'être tout le temps en activité, de tout le temps saisir tout ce qui nous fait peur pour travailler dessus ou tout ce qui nous inspire de manière à le développer. Quand on est en accord avec soi-même profondément, c'est-à-dire quand on a un bon regard vers notre attitude face au monde, et qu'on arrive à se situer d'une façon qu'on aime, ce serait une manière de définir l'éthique, on arrive à se situer d'une façon qu'on aime et qui nous corresponde, à ce moment-là, notre esprit s'apaise et on peut lâcher le besoin de fabriquer une identité plus construite. Ça, c'est quelque chose que je pense que ça vaut la peine, cette dernière phrase par exemple, de vraiment essayer de la comprendre. Même sur plusieurs années de pratique. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.